Cinémag avec Cédric Séquinel.
Bonjour à tous et ravi de vous accueillir encore une fois sur Cinémag, le magazine hebdomadaire de tous les cinémas, uniquement sur Radio Grand Ciel. Aujourd'hui, je vais vous parler de deux films très différents, l'un sorti cette semaine sur les écrans et l'autre qui date de près de 40 ans. Alors leur point commun, pas grand chose, si ce n'est des réalisateurs qui ont peut-être un petit peu poussé la provocation assez loin. On commence tout de suite avec le film de la semaine, Adieu les cons, de et avec Albert Dupontel, mais aussi Virginie Efira, Nicolas Marié et Jackie Berroyer. Alors, je dois vous avouer que je n'ai pas vu toute la filmographie d'Albert Dupontel, je l'avais découvert comme tout le monde il y a presque 25 ans avec Bernie et Le Créateur, des films qui étaient plutôt bien barrés pour l'époque, hein, et totalement dans l'esprit provocateur des Monty Python, qui sont une référence absolue hein, d'Albert Dupontel. J'ai ensuite perdu le réalisateur un petit peu de vue, et puis je l'ai retrouvé il y a 3-4 ans avec Au revoir là-haut, donc une adaptation du roman de Pierre Lemaitre, qui était un film plutôt intéressant sur la forme, qui m'avait laissé quand même un tout petit peu sur ma faim. Et autant vous le dire tout de suite, j'ai vraiment beaucoup aimé. Adieu les cons nous raconte l'histoire de Suze, une coiffeuse de 40 ans, touchée par une grave maladie pulmonaire qui a été causée par les sprays de son salon. N'ayant plus que quelques mois à vivre, Suze part donc à la recherche de son enfant qu'elle avait abandonné sous X alors qu'elle n'avait que 15 ans. Son chemin va croiser de manière inopinée celui de JB, un quinquagénaire solitaire responsable de la sécurité informatique dans une administration. Alors JB, il est complètement au bout du rouleau, et voyant qu'il va être remplacé par des personnels plus jeunes que lui qui vont lui prendre sa promotion, il décide tout simplement de mettre fin à ses jours. Mais ça ne va pas se passer comme prévu. Nos deux héros vont donc se rencontrer et s'aider l'un et l'autre jusqu'au bout. Et c'est une véritable réussite. Soyons réalistes, c'est une comédie, mais vous n'allez pas vous esclaffer de rire à chaque scène. C'est beaucoup plus subtil que ça. En fait, on sourit énormément. Plus que rire. Parce que le Albert Dupontel de Bernie d'il y a 25 ans, il a laissé la place à un réalisateur plus vieux, plus assagi, même si son côté provocateur et anarchiste transparaît toujours à chaque scène. C'est simplement différent et vu, je pense, d'un point de vue d'une personne qui a vieilli. Son point de vue s'est clairement adouci, et s'il n'en reste pas moins toujours corrosif, on trouve à chaque fois une petite nuance qui vient donner un tout petit peu d'émotion. La charge contre la police qui est très présente, ils se font allumer, mais alors à chaque fois que Dupontel le peut, elle se fait de manière assez nuancée, surtout sur la fin du film, qui nous montre plus ou moins ce qui pourrait être considéré comme une bavure, alors qu'elle ne l'est pas, et tout ça à cause un petit peu des réseaux sociaux et des téléphones. En fait, je trouve qu'Albert Dupontel nous livre avec Adieu les cons un film sur le temps qui passe, sur cette fin qui arrive inexorablement. Alors oui, il n'a peut-être que 50 ans, mais c'est aussi le moment où on commence à se poser des questions sur l'avenir et sur la mort, et je trouve que c'est un petit peu ce qui se passe dans ce film. Suze et JB, ils sont littéralement au bout de leur vie, et ils en profitent, je pense, une dernière fois, pour réaliser ce qu'ils ont toujours refusé de faire. Retrouver son enfant, pour Suze, et puis vivre, tout simplement vivre, et s'affirmer pour JB. Un petit peu comme un corollaire à ce sujet, on a droit de plus à tout un travail scénaristique autour des nouvelles technologies. On parle beaucoup d'informatique, de systèmes, de grandes entreprises, de gens qui passent leur temps devant leurs écrans dans ce film. Et Albert Dupontel, il trouve un moyen de nous faire ressentir la solitude touchante, mais alors vraiment touchante, de ces personnes qui passent leur vie derrière des écrans. Comme s'il voulait illustrer de manière un petit peu métacontextuelle son sujet, on sort tout de suite les grands mots, Albert Dupontel ne va pas hésiter à prendre dans son film pour quelques clins d'œil et quelques scènes par-ci par-là, des humoristes ou des youtubeurs actuels, comme par exemple les deux acteurs du Palma Show, dans une scène qui, encore une fois, montre que notre présent se moque du temps qui passe. C'est un petit peu comme s'il était remplacé. Enfin, j'ai trouvé cette idée-là dans le film. Je ne sais pas si c'était une volonté du réalisateur ou pas, mais je trouve que ça renforce un petit peu cet aspect du temps qui passe et d'être remplacé par des plus jeunes. Je le dis encore une fois, Adieu les cons est réalisé de manière vraiment subtile. S'il est beaucoup moins provocateur, le film reste toutefois un film où l'esprit un peu trash et anarchique d'Albert Dupontel transparaît à chaque instant. Beaucoup moins formel qu'Au revoir là-haut, on se trouve dans une histoire vraiment surréaliste, mais traitée de manière sensible. Alors oui, les coïncidences, la trame de l'histoire, ça peut pas fonctionner. C'est complètement surréaliste, mais c'est aussi le style du réalisateur. Les scènes, l'histoire, la manière dont ça se tient, bah en fait c'est pas ça l'important. L'important c'est que ces scènes sont là bah, pour provoquer une réflexion, pour appuyer une indignation, ou alors pour sublimer une émotion. Car de l'émotion, bah, y en a beaucoup dans ce film. Dupontel, à mon sens, touche juste, en tout cas moi il m'a beaucoup touché, et il est servi de plus par un casting qui est absolument impeccable. Je pense notamment à la véritable lumière du film, bah, c'est l'actrice Virginie Efira, hein, qui est absolument bluffante encore une fois. Sincèrement, Virginie Efira, moi je l'ai rarement vue mal jouer. Je trouve que c'est une actrice qui mériterait vraiment beaucoup plus et d'être vraiment reconnue en tant que telle, parce que vraiment, elle fait un perfect à chaque fois, quoi. C'est un point positif très fort du film, hein, parce qu'en plus, ce qui est bien avec Virginie Efira, c'est qu'elle arrive à faire ressortir dans tous ses personnages, je pense, sa propre sensibilité. C'est un petit peu bizarre, et elle y arrive à chaque fois, donc c'est vraiment impeccable. Mais le reste du casting est aussi au diapason, avec une mention spéciale pour Jackie Berroyer, à qui Albert Dupontel octroie peut-être le plus beau rôle du film, à savoir bah, celui d'un médecin atteint d'Alzheimer qui, par on ne sait quel miracle, hein, va petit à petit se souvenir de quelques moments de son passé qui vont faire avancer l'intrigue. Les acteurs sont donc impeccables, le ton est caustique mais touchant, qu'est-ce qui reste ? Eh bah, ben la mise en scène, et là c'est encore un véritable festival. Albert Dupontel, j'ai pas peur de le dire, c'est un immense réalisateur. Et il le prouve ici. Alors que certains se contentent de poser la caméra et de filmer, bon, on sent dans Adieu les cons une véritable envie de faire vivre les images, de proposer un truc, une idée innovante, même pour la plus petite des scènes. Et c'est pas pour impressionner le spectateur, hein, non. C'est simplement pour donner du corps à sa scène ou à son sujet. J'ai 2-3 exemples en tête, comme lors d'un flashback qui nous raconte ce qui s'est passé pour Suze à 15 ans. C'est filmé vraiment de manière très bizarre, sans parole, avec une chanson derrière, et quasiment en stop motion. Et ça permet d'établir en fait tout un pan de l'histoire en quelques secondes. De la même manière, alors que nos héros montent un escalier qui mène aux archives d'une grande administration, eh bien la caméra tourne autour de l'escalier. Ça donne une impression d'infini, et puis bah ça renforce l'impression d'une administration dont on voit jamais le bout. Même chose lorsqu'Albert Dupontel, il utilise une technique de morphing pour réaliser une scène à coups de téléphone successives. Il y a une idée dans chaque petit plan, à chaque moment, et le tout est vraiment renforcé par des dialogues assez savoureux, souvent en décalage. Même si je ne supporte pas cette expression, hein. Le film est loin d'être décalé, et même si son intrigue est surréaliste, il est totalement ancré dans son sujet et son propos. J'ai peut-être un tout petit bémol sur la dernière scène qui se termine, certes de manière sublime, vraiment, mais dont l'arrivée me semble un petit peu rapide. Le film est très court, hein, moins d'1h30, et je pense, en tout cas j'aurais aimé que le réalisateur développe un tout petit peu plus l'histoire entre JB et Suze, dont la fin tombe, comme j'ai dit, un peu trop rapidement. C'est le seul petit défaut d'Adieu les cons que je vous conseille vivement d'aller voir. Vous serez sans doute touché et amusé par cette histoire, donc foncez dans les salles de cinéma pour voir Adieu les cons, de et avec Albert Dupontel et Virginie Efira.
Cinémag avec Cédric Sequinel.
Et nous voilà de retour pour la deuxième partie de Cinémag, où je vais cette fois-ci vous parler d'un très vieux film, sans vraiment grand rapport avec Adieu les cons, hein, si ce n'est d'avoir un réalisateur plutôt provocateur. Je vais donc vous transporter en pleine île de Java pendant la Deuxième Guerre mondiale, avec un prisonnier assez célèbre et son commandant assez rigide. Ça ne vous dit toujours rien ? Allez, un petit indice sonore. Vous l'aurez compris, je vais donc vous parler de Furio, film assez différent de Nagisa Oshima, sorti sur les écrans en 1983. Furio, c'est un film assez subversif, qui nous raconte au travers de l'histoire d'amour entre un commandant de camp de prisonniers et l'un de ses captifs, toute la différence de pensée et de ressenti entre les civilisations occidentales et nippones. Si le sujet et la trame du film sont assez ambigus, ce n'est pas très étonnant, puisqu'il faut en effet savoir que le réalisateur avait auparavant signé un film quasi pornographique, L'Empire des Sens, et qu'il récidivera 2 ou 3 ans plus tard avec le très sulfureux Max Mon Amour, où Charlotte Rampling tombe amoureuse d'un chimpanzé. Si Nagisa Oshima est provocateur, il le fait toutefois avec subtilité et finesse, comme dans ce film donc, Furio, adapté d'un roman nommé Good Morning Mr. Lawrence, et c'est une rencontre entre le producteur anglais Jeremy Thomas et le réalisateur lors du Festival de Cannes 1978 qui va initier le projet. Ils se voient autour d'un verre et puis décident de travailler ensemble. Oshima ne parle absolument plus du tout pendant plusieurs années à Jeremy Thomas, et oui, il met 2 ans en fait à écrire un script qui est pharaonique et qui fait à peu près l'équivalent de 2 ou 3 films. Et il va donc falloir que le producteur, avec l'aide de son scénariste Paul Myersberg, va devoir contorsionner, adapter, modifier un petit peu pour une audience plus européenne. Pas étonnant hein, quand on y pense que la coproduction soit anglo-japonaise, puisque ces deux pays ont quand même plein de points communs. Hein. Tout d'abord, bah, ce sont des pays insulaires, et puis ils sont toujours très fiers de leur tradition. D'ailleurs, hein, une petite anecdote, c'est qu'au départ, on avait proposé au réalisateur de choisir un prisonnier noir américain du Sud profond. Tsukoshima refuse, hein, et il préfère choisir, pour notre plus grand plaisir, David Bowie, qui sort simplement d'une ou deux expériences cinématographiques. David Bowie, en fait, c'est pas le premier choix du réalisateur, hein, qui avait au départ pensé à Robert Redford. Mais ce dernier ayant refusé le rôle, ben Oshima se retourne vers Ziggy Stardust, hein, l'interprète de Ziggy Stardust, après l'avoir vu jouer Elephant Man dans une pièce de théâtre à Londres. Et bon, on va dire que c'est tout simplement le choix parfait, hein. David Bowie interprète avec la grâce et la subtilité qu'on lui connaît toute une gamme de sentiments refoulés, bah, qui nous font réellement vibrer et nous interroger sur les tabous de la guerre. Alors en face de lui, c'est assez rigolo parce que pour incarner le très rigide commandant Yonai, qui va tomber amoureux de David Bowie, Oshima, bah, il choisit un autre chanteur, alors qu'on ne connaît pas du tout, hein, nous, puisqu'il s'agit de Ryushi Sakamoto, et qui est en fait un chanteur électro-acoustique très célèbre au Japon. Donc finalement, ce sont 2 alter-ego hein, qui se rencontrent, et c'est un face-à-face entre 2 superstars de la chanson, et ça donne, vous vous en doutez bien, une confrontation largement à la hauteur. C'est d'ailleurs ce dernier, hein, Ryushi Sakamoto, qui va composer toute la musique du film, dont l'extrait que vous avez entendu auparavant. Bowie n'a pas voulu hein, composer de musique pour le film, craignant que ça l'éloigne trop de son travail d'acteur. C'est d'ailleurs le film hein, où il était avec le recul le plus fier. Dans le casting, on retrouve aussi un tout jeune Takeshi Kitano, avant qu'il ne devienne le fameux metteur en scène qu'on connaît, et qui n'était jusque-là reconnu que comme un acteur de télévision comique. À ne pas oublier la performance de l'acteur Tom Conti, extrêmement bluffante et qui est largement au niveau des 2 autres. On a souvent tendance à l'oublier, mais moi je trouve que c'est quelqu'un qui porte vraiment le film et qui aide bien donc les 2 autres interprètes à faire leur meilleur. Hein. Le tournage, il est assez compliqué. Tout d'abord parce que la plupart des assistants de Nagisa Oshima bah, vénèrent le réalisateur. Et ils voient donc d'un très mauvais œil la participation de Paul Myersberg en tant que co-scénariste. Il va donc falloir un repas arrosé pour que les choses se radoucissent entre les différents membres du tournage. Oshima est très colérique, ne prépare pas ce qu'il va filmer, ce qui tranche quand même avec la méticulosité des scènes du film. Oshima peut passer des heures à engueuler un technicien ou à attendre le plan parfait, ce qui ne l'empêche pas d'utiliser très peu de pellicules. Hein. Le film est présenté au Festival de Cannes, mais ne gagne rien, mais le producteur, Jeremy Thomas, sent qu'un succès est tout à fait possible, et il aura bien raison. Porté par une bande-son incroyable et des acteurs extraordinaires, Furio nous montre toute une partie inconnue de la guerre, préférant largement s'intéresser aux sentiments et aux ressentis des personnages qu'à la misère et les atrocités de celle-ci. Alors si vous voulez voir des performances assez incroyables, une histoire forte et ambiguë, si vous aimez les films sur ce qu'il y a de plus profond en nous, bah, jetez-vous sur Furio de Nagisa Oshima. Notre émission est maintenant terminée, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un tout nouveau Cinémag. À bientôt.
Cinémag avec Cédric Sequinel.